Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais évidemment vous parler du Saint-Esprit. Cela nous fait faire un léger saut en arrière, puisque nous sommes actuellement dans l'étude des œuvres de Dieu, et que nous revenons à l'étude de Dieu lui-même. Vous avez remarqué, je pense, qu'après avoir fait des sermons sur Dieu un, Dieu unique, Dieu créateur, je n'avais fait aucun sermon sur la très sainte Trinité. C'est que le sujet est difficile, mystérieux plus exactement, que le Concile de Trente parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais ne parle pas de la Trinité, ce qui est surprenant. Enfin, en parlant des trois personnes, il parle nécessairement de la Trinité. Et que je pense que le meilleur moyen de nous introduire dans ce mystère, c'est encore la liturgie. Et donc, j'ai voulu attendre cette fête de la Pentecôte pour vous parler du Saint-Esprit et la fête de dimanche prochain pour vous parler de la très sainte Trinité. Le sermon sera en deux parties aujourd'hui. Tout d'abord, l'importance de la fidélité au Saint-Esprit, et ensuite, les dons du Saint-Esprit. Premièrement, l'importance de la fidélité au Saint-Esprit. Il ne faudrait pas croire que le Saint-Esprit et ses dons soient un plus dans la vie chrétienne, dont on pourrait éventuellement se passer, il y aurait ceux qui vivraient selon les commandements, et puis ceux qui iraient un peu plus loin en vivant selon le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas croire non plus que les débutants vivent avec les grâces ordinaires et que ce sont ceux qui sont bien avancés qui vivent du Saint-Esprit. Non, nous avons tous été, enfin tous ceux qui sont baptisés, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit, et même les païens qui se convertissent, les juifs dans l'Ancien Testament qui croyaient en Dieu, tout cela c'était sous l'influence du Saint-Esprit, parce que justement, comme ils n'avaient pas les moyens ordinaires que nous avons pour pénétrer les vérités de foi, le Saint-Esprit les leur donnait lui-même directement. Bien évidemment, si le Saint-Esprit était à ce point actif, et est toujours d'ailleurs à ce point actif, chez ceux qui n'ont pas entendu parler de la foi, s'il était à ce point actif avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, à plus forte raison est-il actif, présent, dès le début, non seulement de notre baptême, de notre vie chrétienne par le baptême, mais même dès le début de notre vie tout court, parce que c'est lui qui nous a guidés. Certes, l'action du Saint-Esprit ne se voit pas beaucoup, mais saint Thomas nous donne une raison, nous explique cet enseignement de la révélation que le Saint-Esprit est très présent dans nos âmes, et ceci pour tous les chrétiens dès le début, et même pour ceux qui vont se convertir à la foi chrétienne. La raison en est très simple, la conduite de la vie chrétienne dépasse nos capacités humaines naturelles, et nous avons besoin d'être pris en charge par Dieu. Il ne suffirait pas que Dieu nous accompagne de l'extérieur, il faut qu'il agisse de l'intérieur. Et vous me direz, mais nous avons la foi, l'espérance, la charité, les vertus chrétiennes. Mais justement, déjà, celles-ci sont données par le Saint-Esprit. Même les vertus ordinaires sont données par le Saint-Esprit. Et puis, les dons, qui vont beaucoup plus haut, sont dans toute vie chrétienne. Et même les dons sont actifs depuis le début de notre vie chrétienne, et donc le Saint-Esprit guide notre vie chrétienne. Comment voulez-vous que des païens soient guidés vers la foi s'ils ne le sont pas par le Saint-Esprit. Eh bien, il serait étonnant que le Saint-Esprit soit moins actif chez nous, les chrétiens, que chez les païens. Donc nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. La confirmation est le deuxième sacrement chronologiquement. C'est celui qui nous donne l'abondance des dons du Saint-Esprit, et il vient juste après le baptême, justement pour perfectionner le baptême et pour rendre parfaite notre vie chrétienne dans le Saint-Esprit. Saint Paul ajoute « Ne contristez pas l'Esprit Saint par lequel vous avez été marqués pour le jour de la rédemption. » Nous sommes marqués par le Saint-Esprit, par le caractère de la confirmation, certes, mais déjà par le caractère du baptême. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien comme cela que nous avons été baptisés. Lorsque je vous ai parlé des vertus, lorsque j'ai fait les sermons sur les vertus, je vous ai montré avec saint Thomas, tout simplement, quelle responsabilité nous avions, quelles actions nous devions mener, comment nous prenons notre vie nous-mêmes en main. Mais lorsqu'on étudie les vertus, saint Thomas d'Aquin nous fait aussitôt étudier les dons, en même temps, en parallèle. Et là, comme je vous le disais, nous sommes pris en charge par le Saint-Esprit en raison de notre faiblesse. Et par conséquent, nous devons être fidèles. Ce qu'on demande à quelqu'un qui est dit « guider », c'est de se laisser guider. Ce qu'on demande à quelqu'un qui est pris en charge, c'est de se laisser prendre en charge. Bien sûr, en collaborant. L'Esprit Saint nous prend en charge pour que nous collaborions avec lui, mais il demande en premier que nous nous laissions prendre en charge. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour vous inviter à être passif, parce que quand vous avez un entraîneur qui prend en charge un sportif, le sportif est loin d'être passif. Je sais, mon exemple est bien limité, puisque l'entraîneur n'est pas à l'intérieur du sportif, il est à l'extérieur. Mais enfin, le sportif est pris en charge, et il est pris en charge justement pour faire des efforts qu'il ne pourrait pas faire s'il n'était pas pris en charge. Pour dépasser ses limites. Donc, il ne s'agit pas de vous inciter à être passif, il s'agit de vous inciter à être fidèle. Quand vous avez un sportif qui est dirigé par un entraîneur, l'entraîneur qui sait les choses, qui connaît les choses, ou bien quand vous avez un disciple qui est dirigé par un maître, un élève qui est dirigé par un professeur, il est évident que le disciple, l'élève, doit se laisser guider, non pas en étant passif, encore une fois, mais en étant fidèle. S'il résiste, s'il fait autre chose, comment voulez-vous que l'impulsion, le soin qu'on prend de lui, puisse être efficace? Notre fidélité à l'Esprit-Saint est d'autant plus importante aujourd'hui qu'il n'y a pas grand monde pour nous rattraper si nous ne sommes pas fidèles. Les chefs défaillent, la société défaille encore plus, nous ne pouvons beaucoup moins compter les uns sur les autres qu'autrefois, ceux qui devraient être docteurs de la foi la bafouent, et par conséquent chacun est désormais seul face à Dieu pour guider sa vie. Il ne peut compter que sur le Saint-Esprit et sa propre fidélité au Saint-Esprit. Il peut beaucoup, beaucoup, beaucoup moins compter qu'autrefois sur des aides extérieures. Deuxième partie du sermon, les dons du Saint-Esprit. Les sept dons. Mais j'insisterai sur trois dons particulièrement. Le premier des dons du Saint-Esprit, alors il y a plusieurs façons de les classer, selon leur dignité, selon l'enseignement donné par Isaïe, parce que nous connaissons les dons du Saint-Esprit, parce que Isaïe énonce la présence de ces dons en notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Donc, si le Messie incarné, le Verbe incarné, c'est-à-dire Jésus fait homme, Jésus Dieu fait homme, est plein du Saint-Esprit, ce qui est une évidence, nous savons par là, puisque Jésus est notre modèle, nous savons par là quels sont les dons qui nous sont faits à nous aussi pour suivre le Christ. Si nous prenons une démarche logique, le premier des dons, c'est l'intelligence, qui nous fait pénétrer dans la foi, c'est-à-dire dans l'intimité des mystères divins. Certes, par la foi, nous croyons déjà tout ce que nous devons croire, et le don d'intelligence ne rajoute pas de nouvelles connaissances de nouveaux mystères. Mais il nous donne une pénétration plus profonde qui va nous donner un plus grand enthousiasme pour les mystères divins, pour Dieu d'abord et pour les mystères divins. Je vous donne un exemple. Vous supposez quelqu'un qui découvre Dieu, les mystères de Dieu, qui a la foi sur terre. Évidemment, pour lui, c'est une découverte merveilleuse. Il entre dans un monde nouveau, le monde de Dieu, qui devient son monde. Lorsqu'il arrivera au ciel, ce sont les mêmes mystères qu'il aura devant les yeux, mais qui seront éclairés d'une lumière bien plus vive et qui lui donneront une joie ineffable. Eh bien, les dons du Saint-Esprit sont entre les deux. Nous passons d'une découverte un peu simple et ordinaire à une grande découverte en attendant la plénitude de la présence de Dieu et du Saint-Esprit dans nos âmes au ciel. Oui, les dons sont mystérieux, le don d'intelligence est mystérieux, c'est un don qui perfectionne notre foi, mais je voudrais attirer votre attention sur deux conséquences qui, elles, sont très claires. Ce don montre tout d'abord que tout chrétien est contemplatif, c'est-à-dire qu'il se nourrit de la contemplation de Dieu et de ses mystères. Après cela, vous avez des contemplatifs qui ne s'adonnent qu'à la contemplation, par exemple les chartreux. Vous avez des contemplatifs qui s'adonnent beaucoup à la contemplation, par exemple les bénédictins. Puis vous avez des contemplatifs qui s'adonnent beaucoup à l'action extérieure, par exemple Saint-Louis, ou les pères et mères de famille. Mais il n'y a pas de chrétien aussi actif soit-il qu'il ne soit contemplatif et dont l'impulsion de départ pour toute la vie ne soit la contemplation des mystères de Dieu. Il suffit de regarder un enfant bien préparé à sa première communion et qui a les bonnes dispositions d'âme lors de sa première communion pour voir que cet enfant est un grand contemplatif, non pas en ce sens qu'il contemple mieux que saint Bruno le Chartreux ou saint Thomas d'Aquin, mais en ce sens que cette contemplation de Dieu est la plus grande part de son activité, non seulement le jour de sa première communion, mais même encore dans les jours, les mois, même quelquefois les années qui suivent, en attendant que le bon Dieu le plonge dans le grand bain du monde. Et alors là, heureux ceux qui, tout en étant dans le monde, conservent cet esprit contemplatif qui justement va leur permettre d'être dans le monde sans en être. Comme le dit notre Seigneur, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Heureux donc, le jeune qui entre dans le monde avec cet esprit contemplatif, cette contemplation ne nuira pas à la richesse de son action. Au contraire, elle nourrira cette richesse, et si le bon Dieu veut qu'il soit actif, il le sera d'autant plus, d'autant mieux. Monseigneur Lefèvre était un grand contemplatif, et il n'est pas le seul. Deuxième conséquence que je voudrais mettre en valeur, l'importance du témoignage de la foi, et jusqu'au martyr s'il le faut. Dieu demande à certains d'être martyrs uniquement pour le témoignage de la foi. C'est dire si cette fidélité à la foi est importante. C'est tellement important que ce martyr, cette fidélité à la foi, suffit pour entrer directement au ciel et être comme canonisé. Le bon Dieu nous appelle aujourd'hui au témoignage de la foi jusqu'à un martyr social, un martyr moral et quelquefois jusqu'au martyr du sang, mais beaucoup plus le martyr des prisons, des geôles, les geôles chinoises, les geôles communistes, tout cela. Il est certain que le bon Dieu aujourd'hui demande de ne rien craindre pour témoigner de la foi. Une application pratique, ce don de l'intelligence s'oppose directement au libéralisme, qui est un péché contre l'esprit. Les libéraux ont la foi grâce à la vertu, mais sans vigueur, car elle n'est pas mue par le Saint-Esprit. Et finalement, leur foi finit par passer au second plan. Je parle des libéraux catholiques, les libéraux modérés, je ne parle pas des libéraux extrêmes, bien entendu, qui eux n'ont même pas la foi. Le libéralisme est un péché contre l'esprit. Et on peut faire une application pratique. Quels sont les critères pour juger la doctrine d'un prêtre, pour juger ses sermons, pour juger les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, de la Fraternité Saint-Pie-X, les conservateurs qui disent la messe de Saint-Pie-V tout en étant liés à l'Église moderne? Vous avez trois critères. Il faut d'abord juger ce qu'il enseigne. Et souvent, ce qu'il enseigne est bon. Il faut juger ce qu'il n'enseigne pas. Et il faut juger ce qu'il prend bien garde à ne jamais enseigner et à ne jamais dire. Et le problème est là. C'est ça le libéralisme. Mais c'est cela qui s'oppose au don d'intelligence, parce qu'on ne veut pas aller trop loin dans la pénétration des mystères de Dieu, parce que sinon, évidemment, les conséquences sont immédiates. Le premier don qui suit l'intelligence, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la foi, donc le don d'intelligence qui dirige nos vies vers Dieu, qui nous fait écarter ce qui est opposé à Dieu. Cette sagesse repose sur la charité, car il faut aimer pour comprendre. Et pour aimer, il faut ressembler. À cause de cela, le don de sagesse est plus digne que le don d'intelligence. Mais chronologiquement, c'est le don d'intelligence qui est à la base. Naturellement. La sagesse ne juge pas le monde, elle le domine. Il revient au sage de déterminer l'ordre, c'est-à-dire de déterminer le but ultime et de tout orienter vers ce but. Et voilà pourquoi la sagesse est la première source d'autorité. Celui qui possède la sagesse possède l'autorité, parce qu'il participe à l'autorité divine, à la sagesse divine, donc à l'autorité divine, même s'il n'est qu'un petit. Tandis que celui qui ne possède pas le don de sagesse perd toute autorité, même s'il est un chef, un évêque ou même le pape. Vous voyez un Catelineau, par exemple, qui était encore jeune au moment des guerres de Vendée et au moment de la Révolution. Catelineau possédait éminemment le don de sagesse, et c'est ce qui lui a donné une si grande autorité autour de lui avant la Révolution. Et lorsque la Révolution éclate, et surtout que les guerres de Vendée éclatent, c'est en raison de cette sagesse qu'il est nommé généralissime des armées vendéennes et royales. Catholique et royale, pardon. Un simple père de famille qui dirige sa famille dans la sagesse a autorité, et cette autorité est nécessairement reconnue. Elle n'est pas toujours suivie. Mais même celui qui s'en écarte sait qu'il s'écarte de l'autorité, et non pas qu'il s'écarte d'une opinion quelconque. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça lui facilite le retour. Pourquoi Mgr Lefebvre, qui était un évêque à la retraite, a-t-il eu une telle autorité dans le monde entier? Parce qu'il était sage, parce qu'il se nourrissait de la contemplation de la foi pour fixer les grands buts, déterminer les grands buts que nous n'avions plus qu'à mettre en œuvre après, que vous, mes bien chers frères, vous n'aviez plus qu'à mettre en œuvre, que même encore aujourd'hui, alors qu'il est défunt, vous pouvez encore mettre en œuvre les buts fixés par Mgr Lefebvre. Ne confondez pas la sagesse et la science. La science s'implique dans les choses du monde. Elle juge le monde, elle s'implique dedans pour le diriger vers Dieu, bien entendu. Tandis que la sagesse domine le monde. Et puis très rapidement, de là découle le conseil qui fait prendre les bonnes décisions, puis la force qui fait passer les intérêts de Dieu avant les nôtres, puis la piété qui fait révérer Dieu comme un père, et enfin la crainte qui nous fait nous défier non pas de Dieu. Nous nous défions de nous-mêmes. C'est pas une peur de Dieu, c'est une peur de nous-mêmes de ne pas être fidèles. Car le monde ne serait pas dangereux pour nous si nous n'étions pas faibles. C'est exprès que je n'ai pas insisté sur les derniers dons du Saint-Esprit. Ils sont plus faciles à comprendre et on en parle peut-être plus souvent. Mais aujourd'hui, dans le désastre actuel, il fallait insister sur le don d'intelligence parce que tout démarre de là et sur le don de sagesse parce que c'est lui qui va nourrir notre activité chrétienne. Pour obtenir les dons, une grande intimité avec le Seigneur, d'où la récitation du chapelet, du rosaire, la contemplation, la méditation, mais la plus facile et peut-être la plus fructueuse de toutes les contemplations et méditations, c'est le rosaire. La lecture de l'Évangile, du Nouveau Testament principalement, puisque je vous ai dit que l'Ancien Testament était difficile à lire et même dangereux si on n'a pas les commentateurs avisés. Et puis, une très grande fidélité, comme je vous le disais au début, ne contristez pas l'Esprit-Saint qui est en vous. L'Esprit-Saint est délicat. Les petites choses, les petites infidélités, ce qu'on appelle à tort les petites infidélités, le font... c'est pas que ça le fait se taire. Il n'est pas comme ça, le Saint-Esprit. Mais c'est nous qui ne pouvons plus l'entendre. Les péchés véniels, les négligences, les péchés véniels de propos délibérés surtout, tout cela fait que nous ne pouvons plus entendre le Saint-Esprit et que par conséquent nous ne pouvons plus le suivre ni lui être fidèles. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.